Micro Méga.
Caroline Lachowski.
Bonjour et bienvenue dans votre micro-méga. Cette semaine, rencontre avec plusieurs femmes remarquables. Asma El Kasmi, d'abord une chimiste renommée qui travaille sur l'eau avec et pour les populations du Moyen Atlas au Maroc. Sylvie Vauclair, ensuite, une astrophysicienne qui réveille les consciences en nous invitant à regarder notre petite planète et les hommes qui y vivent avec d'autres yeux et d'autres outils. À suivre également le dictionnaire impertinent du futur. Vous verrez, c'est pas triste. Enfin, en dernière partie d'émission, dans une heure, ne ratez pas les frères Bogdanov, Igor et Grishka, mutants scientifiques et médiatiques qui seront nos invités multifacettes. Le futur antérieur, c'est tout de suite dans Micro-Méga. Bienvenue.
Micro-méga.
Et ça commence par les brèves, bien sûr, glanées comme chaque semaine, spécialement pour vous, dans l'infosphère. Du nouveau au rayon X, selon la revue Nature, il sera désormais possible de générer ces rayons X, découverts il y a plus de 100 ans par un physicien allemand et qui servent à radiographier et à scanner les hommes comme les objets. Il sera désormais possible de générer donc des rayons X à partir de nanotubes de carbone, ce qui devrait révolutionner à la fois les techniques de radiothérapie médicale, mais aussi plus prosaïquement les scanners à bagages des aéroports. Car ces nano-rayons X permettront de voir instantanément en 3 dimensions. Fini le patient qu'on faisait pivoter dans le scanner, terminé la radiothérapie lourde qui brûle tumeurs et tissus autour. Grâce aux nano-rayons X, on voit tout en 3D et en temps réel, s'il vous plaît, ce qui raccourcit en plus le temps d'exposition à ces rayons X pour votre corps ou pour vos bagages, selon l'application choisie pour ces futurs nano-rayons X en 3D qui vont très certainement et très prochainement envahir hôpitaux et aéroports. Un mystère de plus résolu par la science. Le mystère du bec énorme du toucan. Mais pourquoi donc cet oiseau tropical est-il doté d'un bec aux proportions si gigantesques, près d'un tiers de sa taille? Darwin lui-même s'était posé la question et avait émis l'hypothèse de la séduction grâce à ce magnifique bec coloré. Le toucan multiplierait ses chances d'attirer sexuellement sa partenaire et donc de s'assurer une plus large descendance. Or, une toute nouvelle étude parue dans Science vient de démontrer que le gros bec du toucan lui sert en fait à réguler sa température, ce qui est bien utile, me direz-vous, sous les tropiques, surtout quand, comme les oiseaux, on ne peut pas transpirer. Ce bec monstrueux, doté de nombreux vaisseaux, lui sert donc de thermorégulateur, comme une sorte de refroidisseur ou d'air climatisé intégré, qui permet au toucan de dégager la chaleur en excès et donc de garder son corps au frais, exactement comme les grandes oreilles des éléphants, mais encore plus efficace et surtout plus haut en couleur. De la couleur, justement, mais pas n'importe laquelle. Pour soigner les lésions de la colonne vertébrale, il faut du bleu brillant G, celui-là même qui sert de colorant pour faire des friandises ou des bonbons bleus. Eh bien, ce bleu BBG s'est révélé le meilleur des médicaments pour soigner des rats atteints de paralysie. Les chercheurs de l'université de Rochester, dans l'état de New York, ont en effet découvert que ce colorant alimentaire contenait une molécule métabolite capable de stimuler les cellules nerveuses de la moelle épinière et donc susceptible de faire remarcher des rats victimes de graves lésions spinales. Seul bémol, si j'ose dire, dans tout ce bleu, c'est que les rats ont dû ingurgiter de très grosses quantités de colorants, beaucoup plus que les quelques gouttes contenues dans les bonbons ordinaires, et qu'on ne sait pas vraiment quels sont et seront les effets secondaires de tout ce bleu. À le seul effet à la fois secondaire et, comment dire, visible, c'est que les rats soignés sont devenus tout bleus. Micro-Méga sur RFI. Nous partons maintenant sur les traces d'une chimiste pas tout à fait comme les autres. Distinguée cette année au festival Sciences Frontières, nous l'avons rencontrée à Marseille comme l'une des 25 femmes qui font changer le monde. Asma El Kasmi a en effet mis en place à l'université d'Ifrane au Maroc, dans le Moyen Atlas, un laboratoire innovant d'analyse et de traitement des eaux en lien étroit avec les populations rurales et notamment en collaboration avec les femmes des villages. L'UNESCO lui a du coup confié la chaire eau, femmes et pouvoir de décision, une responsabilité qu'Asma El Kasmi assume avec énergie, avec charme et humour, bah normal, pour quelqu'un qui est tombé dans la chimie quand elle était petite et avec bonheur en plus.
Tout de suite pour moi, ça a été une façon de faire de la science en s'amusant, c'est-à-dire être dans un laboratoire, pouvoir mélanger des choses, avoir cette impression de créer, et ensuite essayer de comprendre, ou essayer de comprendre et ensuite mélanger des choses pour voir ce que ça donne. Il y avait tout ce volet expérimental qui effectivement me séduisait, c'est-à-dire avoir l'impression d'être à la source des choses, essayer de mélanger des atomes, des choses qui sont très petites pour en faire des choses plus complexes. Et une fois que ces choses complexes sont là, la possibilité de les décortiquer. Donc il y avait tout cet aller-retour de la matière qui me fascinait. Et qui encore aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses que l'on voit, que l'on sent, que l'on touche. Mais pour moi, ces choses-là ont aussi une composition chimique. C'est-à-dire que quand je suis là avec vous, j'ai beaucoup de plaisir à sentir cet air, être devant le vieux port. Mais pour moi, c'est de l'oxygène, c'est de l'eau, c'est du H2O. Donc il y a toujours eu dans ma tête cette relation entre la nature et puis sa composition chimique.
C'est-à-dire aussi que pour vous, la chimie, c'est finalement un regard sur le monde, une manière d'être dans ce monde-là.
Pour moi, c'est cet émerveillement d'abord par rapport à ce que la nature a pu faire et que nous essayons de reproduire tant bien que mal. Donc il y a déjà cette fascination par rapport à ce qui existe, mais aussi cette capacité de l'esprit humain à dompter cette nature, à la comprendre et à essayer, des fois avec succès, et c'est ça qui est génial dans la science, de créer, de pouvoir transformer, ajuster. Donc il y a toute cette partie expérimentale de la chimie qui a des applications tellement concrètes que ça ne peut pas être rébarbatif, parce que quand on fait de la chimie, on est face à ses émotions aussi. On voit une réaction chimique, les choses se passent et on se regarde par rapport à ces choses-là et vice-versa. Donc il y a cette implication émotionnelle dans la chimie qui me plaît.
Incroyable, vous allez me faire aimer la chimie.
Non mais c'est vrai, c'est vraiment cette dimension au-delà des formules chimiques, au-delà de... c'est de pouvoir s'amuser, être face à la création, voir les choses se passer. C'est quand même extraordinaire de se dire que déjà, sans beaucoup comprendre ce qu'on fait quand on fait une réaction chimique, parmi les premières réactions chimiques qu'on peut faire, c'est des réactions acide-base, c'est des choses très simples, et tout d'un coup on voit des bulles, on voit des formations de gaz, on voit des changements de couleur. Donc tout de suite, ça parle à l'humain. Tout de suite, on est dans des transformations qui font que on a envie de reproduire ça, on a envie que ça fasse partie de notre vie. C'est vrai que pour moi, la chimie, ça a toujours été quelque chose de très sexy.
Asma El Kasmi, vous avez donc décidé de faire des études de chimie. Vous avez été au CNRS, en France, à Paris. Vous êtes ensuite partie aux États-Unis. Et puis on vous retrouve aujourd'hui au Maroc. Et vous tenez la chaire donc de l'UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Qu'est-ce qui a fait que la brillante universitaire que vous êtes, qui a fait ses études en Occident et choisi de retourner en Orient?
Je pense que c'est un cheminement qui s'est fait sans que vraiment j'y réfléchisse. C'est vrai que j'ai démarré ma carrière scientifique à Paris, dans un laboratoire très renommé, où j'ai eu la chance de travailler avec de très grands scientifiques. Mais tout de suite, j'ai été attirée par la vie, par tout ce qui était molécules biologiques. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler sur l'électrochimie des modèles, en train de regarder des porphyrines, c'est des modèles de protéines qu'on retrouve dans le sang, dans l'hémoglobine, etc. Je regardais les transferts d'électrons, mais tout de suite, j'ai été fascinée par la matière elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on met une enzyme sur une électrode, essayer justement de faire le lien entre ces transferts d'électrons artificiels et ce qui se passe vraiment dans la vie, dans les phénomènes d'oxygène. oxydoréduction, la photosynthèse, la respiration, tout ça, c'est des phénomènes qui nous touchent, mais qui sont des réactions d'oxydoréduction. Ça m'a poussée à aller vers les États-Unis, c'est vrai, où j'ai eu une opportunité de pouvoir travailler dans des laboratoires de bioélectrochimie. Et là, ça m'a tout de suite ouvert des portes vers comment appliquer donc ces réactions d'oxydoréduction par rapport à l'environnement, par rapport à la dépollution, par rapport à comprendre ce qui se passe avec des pesticides, pouvoir aller sur des biotechnologies, donc tout ce qui est manipulation des enzymes pour pouvoir comprendre les réactions biologiques. Et là, c'est vrai que j'ai été très reconnue à l'échelle internationale, mais j'avais toujours ce décalage par rapport à ce qui se passait chez moi au Maroc. C'est-à-dire que le degré d'avancée, de recherche de pointe que je vivais dans les laboratoires américains n'était pas complètement en phase avec ce que je voyais dans nos universités marocaines, avec ce qui se passait au niveau du développement local au Maroc. Et j'avais envie d'être un peu plus proche de ce qui se passe effectivement dans mon pays.
Et comment êtes-vous retourner au Maroc, et non seulement au Maroc, mais à travailler sur l'eau avec les femmes et dans des régions particulièrement rurales du Maroc?
Ça a été une très belle rencontre, en fait. Ça a été une rencontre avec une université. Je suis rentrée des États-Unis parce que j'étais sollicitée par une nouvelle université qui s'installait dans la région d'Ifrane. Ifrane, c'est dans le Moyen Atlas marocain. C'était une université qui suivait le modèle anglo-saxon. Et donc, on faisait appel à des Marocains qui se trouvaient déjà dans des universités américaines pour pouvoir justement apporter et aider à implémenter ce nouveau système d'éducation au Maroc. C'est une université prestigieuse qui a une renommée internationale. Et une des missions de cette université était de comprendre ce qui se passe dans son environnement très proche. Petit à petit, avec les étudiants, on s'est intéressé à ce qui se passe dans des villages qui sont peut-être à une dizaine de kilomètres, mais qui ont des préoccupations autres que les nôtres. La gestion de l'eau, comment très simplement se réchauffer en hiver. C'est une région où il fait très très froid, où on voit que les gens coupent le bois pour se chauffer. Pour nous, ça n'était pas normal, parce qu'on détruit la forêt. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Donc, il y a des idées qui sont parties, comment faire du biogaz, comment mettre au service de la population ce que nous déployons et mettons en place au niveau de nos laboratoires. Et donc tout de suite est partie cette vision de recherche, mais recherche pour le développement. On s'est intéressé à la pollution de l'eau, c'est-à-dire qu'on était juste à côté de Fès, qui est connue pour son industrie des tanneries, des colorants, donc des métaux lourds qui se retrouvaient dans l'eau, et tout de suite on connaît. J'ai développé aux États-Unis des techniques pour de bioréacteurs pour dépolluer les métaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup d'idées sont venues des étudiants. On allait dans des régions enclavées, et puis la question était, mais comment ça se fait? Il n'y a pas d'activité génératrice de revenus. Ce sont des gens qui ont besoin qu'on essaye de les orienter vers des activités qui puissent faciliter leur vie. Et bon, on travaille avec la population dans une région où la préservation de l'eau est importante. Donc tout de suite, l'idée d'une chaire UNESCO en fait coulait de source.
Comment est-ce qu'on s'y prend pratiquement, Asma El Kasmi, quand on est une universitaire et qu'on descend finalement du labo jusqu'au village? Vous savez beaucoup de choses, les paysans à qui vous vous adressez en savent moins ou en savent d'autres. Comment est-ce qu'on fait pratiquement?
Eh bien, je crois que c'est justement tout le génie de ce qui doit être déployé en ce moment, et ça reste ma conviction profonde, de comment simplifier la science de façon à ce qu'elle devienne accessible, même pour des populations qui ont des niveaux d'éducation qui ne sont pas très élevés. Quand je travaille avec des femmes dans le milieu rural pour leur expliquer ce que c'est qu'une eau qui est de bonne qualité et une eau qui l'est moins, il est clair que je ne vais pas aller leur parler tout de suite de paramètres physico-chimiques ou bactériologiques. Donc il ne faut pas aborder la chose de façon savante.
Par exemple,
je vais vous donner un exemple très simple. On a envie de regarder le pH de l'eau. Le pH de l'eau, c'est des réactions acido-basiques. Je ne vais pas aller expliquer ce que c'est qu'un pH acide, ce que c'est qu'un pH basique. Je vais tremper un papier pH dans l'eau, ça tourne d'une couleur, c'est bon, ça tourne de l'autre couleur, c'est pas bon. En fait, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision du Maroc fait partie d'un réseau de chaires UNESCO qui s'appelle Femmes, Sciences, Technologies et Développement. Donc ce réseau comprend la chaire du Maroc, mais aussi une chaire UNESCO au Togo, en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le Pakistan. Il y a l'Amérique latine avec le Brésil et l'Argentine. Et toutes ces chaires UNESCO, leur point commun, c'est de comment mettre la science au service des populations. C'est-à-dire comment utiliser ces avancées technologiques pour, de façon à être plus percutant et faire les choses plus rapidement dans des environnements où il y a besoin d'être rapide. Donc dernièrement, nous avons fait une formation des formateurs. Les étudiants étaient des experts de l'eau. Et en fait, ce qu'on leur a appris, c'est comment avoir des techniques de communication et de sensibilisation par rapport aux populations. Je connais, il y a des femmes qui travaillent sur des maladies hydriques très pointues en Afrique, d'autres qui travaillent sur des métaux lourds, le Pakistan qui travaille sur l'arsenic. Donc c'est des thématiques qui sont hautement scientifiques et qui font appel à des recherches de pointe. Mais l'idée in fine, c'est comment faire passer le message par rapport aux populations. Comment faire en sorte d'éviter des catastrophes sanitaires et d'éviter des intoxications. Donc tout ça, il y a un apprentissage à faire.
Et ça marche ?
Oui, je pense que plus d'efforts encore devraient être mis dans ces systèmes de simplification pour que ça soit encore plus percutant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas honte de me dire que je suis passée du laboratoire au village. Et j'aimerais en encourager d'autres à faire la même chose.
Dans le cadre de la chaire UNESCO, aux femmes et pouvoirs de décision qu'elle occupe, comme sur le terrain au quotidien, dans la région Radifrane, au Maroc, Asma El Kasmi s'adresse d'abord et surtout aux femmes. Alors pourquoi ? Pourquoi les femmes sont-elles tout spécialement visées par ces programmes ?
Le problème de l'eau en Afrique en général est un problème qui est entre les mains des femmes, en priorité. Ce sont elles qui sont responsables de la gestion, bien sûr, au quotidien. Ce sont elles qui, au niveau des ménages, savent comment gérer l'eau. Elles sont responsables de la nourriture, de l'éducation des enfants, de l'hygiène. Donc c'est clair que les premières concernées par la gestion de l'eau, ce sont les femmes. Mais il n'y a pas que ça. Je n'ai pas envie de donner aux femmes juste ce qu'elles ont besoin de savoir. C'est-à-dire que j'ai envie d'utiliser justement cette l'eau comme vecteur de développement des femmes pour aller encore plus loin. Et là, c'est la scientifique femme qui vous parle. C'est-à-dire que dans mon pays, dans beaucoup d'autres pays, en France aussi, les femmes sont minoritaires dans les métiers scientifiques. Dans tout ce qui est science, ingénierie, ce sont des métiers d'hommes. Aujourd'hui, nous avons la capacité de former des jeunes filles dans des universités qui s'en sortent très bien, qui ont autant de mérite que leurs compagnons hommes, tu vois, qui arrivent à obtenir des résultats plus que satisfaisants. Mais ces jeunes femmes, nous ne les retrouvons pas au niveau des postes universitaires, au niveau des postes de responsabilité. On a l'impression que quelque part, la chaîne est coupée. Il y a cette sensibilité et même émotion qui jusqu'à présent a été décriée par rapport aux femmes. On dit non, il ne faut surtout pas confier ce travail aux femmes parce qu'elles sont émotionnelles. Moi, je dis aujourd'hui, confions-leur ce travail parce qu'elles sont émotionnelles. Et encore une fois, dans une démarche expérimentale, je me dis, il y a une différence. Donc, la scientifique que je suis a envie d'examiner cette différence et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait en sortir de bon.
Finalement, vous nous faites entrevoir la chimie sous un autre œil.
C'est vrai, je pense que l'image de la science est en train de changer par rapport à ça aussi. Vous savez, il y a des changements de paradigmes qui sont assez clairs. Nous regardons aujourd'hui au quotidien cette évolution. Les métiers de l'eau qui, au départ, avaient une mission purement hydraulique, aujourd'hui se tournent plus vers une mission de développement durable. Donc on s'intéresse à l'environnement, on parle de la préservation des ressources, on parle d'assainissement, on parle de choses qui sont très liées au système vivant. Donc toute cette métaphore ne vient pas de nulle part. C'est un constat qu'aujourd'hui, faire de la science, c'est aussi faire de la science en harmonie avec la nature.
Et c'est possible quand on est chimiste, quand on est femme, quand on est marocaine, c'est possible.
Bah écoutez, je ne sais pas si c'est les bons ingrédients, mais en tout cas, je sais que je ne suis pas toute seule. J'ai des collègues en France, à l'UNESCO, je travaille avec des femmes et des hommes africains. Donc je pense que ce sont des réflexions qui aujourd'hui existent. Aujourd'hui, ça paraît encore un peu exotique, mais dans quelques années, ce sont des choses qui vont être abordées avec beaucoup plus de sérénité.
Affaire à suivre, donc merci beaucoup Asma El Kasmi. Micro Méga, ne quittez pas, on se retrouve juste après le point de l'actualité pour un autre point de vue sur l'histoire de l'humanité sur Terre, carrément. Ce sera celui de l'astrophysicienne Sylvie Vauclair. Restez avec nous, le voyage vaut le détour, à tout de suite sur RFI.